Genèse 31. Et il, Jacob, entendit les paroles des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec ce qui était à notre père qu'il s'est fait toute cette gloire. Et Jacob regarda le visage de Laban, et voici, il n'était pas envers lui comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Et Jacob envoya et appela Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Et leur dit, je vois le visage de votre père, qui n'est pas envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force, et votre père s'est moqué de moi, et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait ainsi, les marquetés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des marquetés. Et s'il disait ainsi, les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des rayés. Et Dieu a ôté le troupeau de votre père et me l'a donné. Et il arriva, au temps où le bétail entrait en chaleur, que je levai mes yeux, et je vis en songe, et voici, les boucs qui couvraient le menu bétail étaient rayés, marquetés et picotés de blanc. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et je te dis, et je dis, me voici. Et il dit, lève tes yeux et vois, tous les boucs qui couvrent le menu bétail sont rayés, marquetés et picotés de blanc. Car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Et Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une portion et un héritage dans la maison de notre père ? N'avons-nous pas été réputés par lui des étrangères ? Car il nous a vendus et a même toujours mangé notre argent. Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père sont à nous et à nos enfants. Et maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Et Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Elle amena tous ses troupeaux et tout son bien qu'il avait acquis, les troupeaux qu'il possédait, qu'il avait acquis à Padan Aram, pour aller vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Et Laban était allé tondre son menu bétail. Et Rachel vola les téraphim qui étaient à son père. Et Jacob trompa Laban, l'Araméen, car il ne lui a pas appris pas qu'il s'enfuyait. Et il s'enfuit, lui et tout ce qui était à lui. Il se leva et passa le fleuve et dressa sa face vers la montagne de Galaad. Et le troisième jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Et il prit ses frères avec lui et le poursuivit le chemin de 7 jours. Et l'atteignit à la montagne de Galaad. Et Dieu vint vers Laban, l'Araméen, dans un songe la nuit, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Et Laban atteignit Jacob. Et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Et Laban dressa la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Et Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait de m'avoir trompé et d'avoir amené mes filles comme des captifs de guerre ? Pourquoi t'es-tu enfui en cachette et t'es-tu dérobé d'avec moi et ne m'as-tu pas averti ? Et je t'aurai renvoyé avec joie et avec des chants, avec le tambourin et avec la harpe. » Et tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. En cela, tu as agi follement. J'ai en ma main le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée, disant, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Et maintenant que tu t'en es allé, parce que tu languissais tant après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Et Jacob répondit et dit à Laban, parce que j'ai craint, car j'ai dit de peur que tu ne me ravisses tes filles. Qu'il ne vive pas celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Devant nos frères, reconnais ce qui est à toi chez moi et prends-le. Or, Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Et Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa et dans la tente de la servante et ne trouva rien. Elle sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel avait pris les téraphimes et les avait mis dans le bas du chameau. Et s'était assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne voit pas d'un œil irrité, que je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. » Elle chercha, mais elle ne trouva pas les téraphimes. Et Jacob se mit en colère et querella Laban. Et Jacob répondit et dit à Laban, « Quelle est ma faute, quel est mon péché, que tu m'aies poursuivi avec ardeur, quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé de tous les effets de ta maison? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'il juge entre nous deux. Ces 20 années j'ai été avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce qui a été déchiré, je ne te l'ai pas rapporté. Moi, j'ai dû en souffrir la perte. Tu as redemandé de ma main ce qui m'avait été volé de jour et ce qui m'avait été volé de nuit. J'en étais là que de jour la sécheresse me dévorait et de nuit la gelée. Et mon sommeil fuyait mes yeux. Ces vingt années, j'ai été dans ta maison. J'ai été servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton menu bétail. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la frayeur d'Isaac n'avait été pour moi, certes, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains. Et il t'a repris la nuit passée. Et Laban répondit et dit à Jacob, les filles sont mes filles, et les fils sont mes fils, et le bétail est mon bétail, et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à celles-ci mes filles ou à leurs fils qu'elles ont enfantés? Et maintenant, viens, nous ferons une alliance, moi et toi. Elle sera un témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre et la dressa en stèle. Et Jacob dit à ses frères, « Amassez des pierres. » Elles prirent des pierres et en firent un monceau. Et mangèrent là sur le monceau. Et Laban l'appela Jega-Saha-Douta et Jacob l'appela Galet. Et Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi il appela son nom Galet et Mitzpah, parce qu'il dit que l'Éternel veille entre moi et toi quand nous serons cachés l'un à l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends des femmes ou mes filles, outre mes filles, il n'y a aucun homme avec nous. Regarde, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau, et voici la stèle que j'ai élevée entre moi et toi. Ce monceau sera témoin, et la stèle sera témoin, que moi je ne passerai point ce monceau pour aller vers toi et que toi, tu ne passeras point ce monceau et cette stèle pour venir vers moi pour faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nacor, le Dieu de leur père, juge entre nous. Et Jacob jura par la frayeur de son père Isaac. Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la montagne. Jusqu'ici, la parole de Dieu au début. L'histoire de Jacob dans l'Ancien Testament est remarquable. C'est pas comparable à la foi d'Abraham. La foi d'Abraham est vraiment un exemple. Dans le Nouveau Testament, on peut lire que lui est le père des croyants, des pères de ceux qui croient, Israël comme des nations. Et parce que la foi d'Abraham était si profonde, Dieu l'a donné ce privilège d'être une image de Dieu le Père. Elle est remarquable en fait. Nous avons beaucoup d'exemples, beaucoup d'images du Seigneur dans l'Ancien Testament. Des personnes, des sacrifices, des situations, etc. Mais il est rare, très rare, qu'on a une image de Dieu notre Père. Et Abraham est un de ce peu d'exemples. De donner son fils. On a encore Zacharie 13, c'est pas un exemple, c'est juste une prophétie. Mais Dieu a voulu, par ses exceptions, nous montrer ce qui était dans le cœur du Père, de donner son fils. Isaac, en fait, était un homme faible, très faible. Et quand même, Dieu l'a donné ce privilège d'être une image, un type du Seigneur. Chapitre 22, où Abraham est le Père. Chapitre 24, où Abraham est Dieu le Père, comme image. Il est le type de ce fils, remarquablement. Il y a une chose qui est unique pour Isaac, qui est différent d'Abraham et aussi de Jacob. Isaac était né dans le pays Canaan, il a vécu dans le pays Canaan, il était mort dans le pays de Canaan, il n'a jamais sorti de ce pays. Il est par cela un type de notre Seigneur céleste. Comme le Seigneur a pu dire, et selon lui certainement, le fils de l'homme qui était sur la terre, qui est dans le ciel. Abraham est né hors du pays, est entré dans le pays, a sorti le pays comme nous avons vu hier, est revenu dans le pays. Jacob était né dans le pays, on va le voir plus tard. Mais elle est sortie de ce pays. Isaac, jamais, jamais. Elle était toujours ce fils céleste. Ça veut dire vraiment une image, un type de notre Seigneur qui était, qui est, qui sera éternellement dans le ciel. Jacob n'est pas une image, un type du Père. Pas non plus du fils, non. Ce n'est pas juste ce que j'ai dit. Mais premièrement, il est un type de l'esprit, mais d'une sorte différente. Abraham est objectivement un type du Père. Ça veut dire, si on regarde comme objet Abraham, nous voyons le Père. Avec Isaac, la même chose. C'est objectivement le Seigneur, Christ. On regarde vers Isaac et on voit Christ. Avec Jacob, c'est différent. Jacob n'est pas quelqu'un, nous le voyons comme esprit, l'Esprit Saint, mais il est subjectivement, comme on dit quelquefois, un type de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit a agi en lui. Et on voit comment Dieu a agi en Jacob pour l'amener à un bon but de sa vie. Elle est vraiment remarquable. Il y a peu des personnes dans l'Ancien Testament qui ont vécu comme des croyants, qui ont resté fidèles. Avec Jacob, c'est, je crois, comme avec nous, il y avait des hautes situations, il y avait des basses situations. Sa vie est comme ça. Certainement, ce n'était pas tout droit, mais il y avait à gauche, à droite, toujours. Mais il y a presque personne, sauf lui, qui avait le sommet de la vie, tout à la fin de sa vie. L'adoration, pour ainsi dire, sur son lit de mort. Ça veut dire vraiment le sommet était tout à la fin de sa vie. Et ça peut être la raison pour laquelle, peut-être le seul, je ne sais pas, il n'est pas seulement un type de l'Esprit Saint, il est aussi un type du Père. Chapitre 37, quand il a envoyé Joseph à ses frères, on voit quelque chose de Dieu notre Père, qu'il a envoyé le Fils envers son peuple. Et ce n'est pas tout. Dans le chapitre 29, c'est où il sort du pays pour aller à Charan. Et là-bas, il veut se marier avec Rachel. Et ça, c'est un type de notre Seigneur qui a une relation d'amour avec Rachel, Israël, et avec Léa, l'Assemblée. Alors, en Jacob, on voit peut-être Dieu a donné cela pour nous montrer que Dieu est un et en même temps trois personnes. Et cela, on peut voir en type avec Jacob. Que vraiment une personne, lui comme homme, hein, faible, comme nous l'avons vu, mais quand même peut donner le type des trois personnes divines de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. La vie de Jacob est décrite dans trois parties. La première partie est sa vie dans le pays. Chapitre 25 à 28. La deuxième partie, c'est à partir où il était dans le pays. Ça nous montre plutôt ses péchés, comme il a usé la ruse, qu'il a essayé de faire tromper son frère Ésaü. Deuxième partie, à partir du chapitre 29, nous montre quand il a qu'elle est partie du pays. Voilà le Seigneur. Le Seigneur qui est venu ici sur la terre de Canaan pour chercher sa femme, pour ainsi dire. Il est très remarquable quelle était la possession de Jacob quand il est allé à Charan et n'avait rien que son bâton. En Cana, il était le fils d'Isaac qui a eu tout. Toutes ces richesses d'Abraham étaient dans la main, pour ainsi dire, d'Isaac. Ça veut dire Jacob était, avec son père, un riche. Mais quand il a entré dans Charan, dans le monte, cette terre, il était pauvre. Le Seigneur qui était riche, est devenu pauvre pour nous. La troisième partie est quand il revient en Israël, en Canaan, on parle chapitre 35, 36. Troisième partie. Et après, il y a encore une annexe, une quatrième partie. Il est remarquable, chapitre 37 commence, c'est les générations, je ne sais pas comment ça se dit dans votre version en français. Chapitre 37, verset 2. Ce sont ici les générations de Jacob. C'est une expression qu'on trouve 11 fois dans Genèse et qui donne la structure. Parce que la première fois, chapitre 2, verset 4, alors on a 12 parties dans ce livre. C'est la dernière fois ici. Ce sont ici les générations de Jacob, Joseph. L'histoire de Jacob a son sommet quand Joseph est le centre de sa vie. Et c'est exactement avec nous. Si notre vie doit être une vie de valeur, c'est seulement si notre vie est Joseph, ça veut dire Christ. En fait, les meilleures années, bon, on ne peut pas dire directement à partir du chapitre 37, plutôt quand il entre en Égypte. Les 17 dernières années où il était autour de Joseph étaient le mieux de sa vie. Pour nous, quel est notre but pour notre vie? Est-ce que nous voulons suivre les étapes de Jacob à droite, à gauche? Ou est-ce que nous voulons vivre comme elle a vécu à la fin de sa vie, autour de Joseph? Ici, nous sommes dans la deuxième partie, chapitre 31, dans la deuxième partie de sa vie. Cet épisode, à la fin de son temps en Charan avec Laban. Comme tous les chapitres dans des Genèses, plus ou moins, on a une partie qui nous montre une prophétie, ça veut dire la prophétie, le futur du peuple d'Israël. On voit deuxièmement Christ, comme souvent, dans beaucoup des chapitres de l'Ancien Testament. Et certainement, troisièmement, on peut apprendre des choses aussi pour nous. Jacob est ici, pour ainsi dire, dans ce monde. C'est aujourd'hui. C'est le temps d'aujourd'hui. Où Israël est dispersé dans le monde, certainement, mais fait partie de ce monde, est lié avec ce monde, Laban. Mais il sera un moment où Dieu va appeler ce peuple pour se séparer de ce monde, pour devenir un peuple de Dieu encore. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas un peuple de Dieu. Israël est un pays, ce n'est pas un peuple. Mais il sera un temps où Dieu dit, lève-toi, levez-vous pour vous séparer de ce monde, pour devenir encore une fois, un peuple de Dieu. Verset 11, l'ange de Dieu me dit, verset 13, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. » On a la deuxième stèle de quatre dans la vie de Jacob ici. La première stèle, chapitre 28, nous rappelle le temps où Israël avait eu cette première, pour nous, l'ancienne alliance avec Dieu, Exode 20, Exode 24. où ils ont fait ce vœu, tout ce que tu nous dis, on va le faire. Et il y avait, et il sera une deuxième stèle dans le futur, où Dieu va dire, maintenant, je vais vous faire de nouveau mon peuple. C'est vrai, c'est fait par un résidu, mais c'est ici Jacob qui est en train de devenir encore une fois une personne avec qui Dieu fait, pour ainsi dire, une alliance. Et remarquable que entre-temps, on ne voit pas ou presque pas des révélations de Dieu à Jacob. Il était dans ce monde. On peut dire des années perdues pour Israël. Mais c'est la miséricorde de Dieu de les restaurer, de venir vers eux pour le faire encore une fois, ce peuple de Dieu. Il faut se rappeler, c'est pour Israël, ils vont se rappeler des choses qui étaient dans le temps de l'Ancien Testament. Et ils vont se séparer de Laban, de ce monde, et Dieu va mettre, pour ainsi dire, une stèle, pour montrer, maintenant, il y a un nouvel temps où Israël sera séparé de Laban, séparé de ce monde, pour être de nouveau le peuple de Dieu. Les comportements de ce monde envers Israël est exactement comme nous avons lu ici, comme Jacob le décrit envers ses femmes et aussi plus tard envers Laban. C'est vraiment, on voit que le monde a rejeté, a poursuivi Israël pour le tuer, pour le prendre tout. Et c'est le temps d'aujourd'hui où certainement comme discipline, comme jugement de Dieu sur Israël, mais le monde a pris presque toutes les possessions d'Israël. Et quand même, Dieu a veillé sur son peuple, comme il a fait ici avec Jacob. Dieu ne laisse pas ce peuple, les nations, être ceux qui sont capables de tuer Israël. Il y avait plusieurs essais de le faire, mais Dieu a gardé son peuple. Comme il a intervenu ici avec Laban pour le dire, tu ne dois pas faire quelque chose contre Jacob. Oui, peut-être ça suffit pour dire quelques mots sur cette prophétie. Deuxièmement, sur le Seigneur Jésus. Si on voit dans les versets 38, et c'était plus tard, ces 20 années j'ai été avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ça montre le Seigneur dans sa patience. Quand elle est venue ici sur la terre, quelle patience elle avait eue avec son peuple. Quelle patience elle avait pour l'homme qui a rejeté le Seigneur. Jean 1 nous montre que ce n'est pas seulement Israël qui a rejeté le Seigneur, mais aussi nous, les nations. Quelle patience. Verset 39. Ce qui a été déchiré, je ne te l'ai pas rapporté. Je ne te l'ai pas rapporté. Mais j'ai dû en souffrir la perte. Si on regarde psaume 69, dans ma version, c'est verset 5. Et vous savez que psaume 69 parle du Seigneur. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants. Ce que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. On va revenir à ce psaume. Dans le verset 40 de notre chapitre, j'en étais là que de jour, la sécheresse me dévorait et de nuit, la gelée. On lit dans psaume 69 plus tard. Au moins, c'est le verset 10. Car le zèle de ta maison, la maison de Dieu, m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. C'est vraiment le Seigneur dans ses souffrances. Les souffrances du peuple d'Israël et aussi les souffrances envers les nations. Dans le verset 42, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, que la frayeur d'Isaac n'avait été pour moi, certes, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains et t'a repris la nuit passée. Il a vu mon affliction. N'est-ce pas? Psaume 88, il est dit, verset 10, dans ma version, mon œil se consume d'affliction. J'écris à toi, l'Éternel, tous les jours. Mon œil se consume d'affliction. On pense à ces lamentations de Jérémie où le Seigneur prophétiquement dit, chapitre 3, verset 1, « Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de sa fureur. » On peut ajouter, c'est plutôt la prophétie pour le peuple d'Israël, Isaïe 48, où il est dit dans le verset 10, l'autre verset, son affliction. Ah, verset 10, c'est ça. Voici, je te purifierai, mais non comme de l'argent. Je t'ai choisi au creuset de l'affliction. Ça nous montre l'affliction du peuple de ce résidu d'Israël, que l'affliction du Seigneur est l'affliction de ce résidu. Et parce que le Seigneur a subi cette affliction lui-même, il va être capable de sympathiser, d'être, pour ainsi dire, le sacrificateur pour son peuple, parce qu'il a enduré exactement la même chose qu'eux. Et certainement, on peut l'appliquer aussi à nous. Toute affliction qu'on peut endurer, le Seigneur avant à endurer, est capable par expérience. Elle était toujours capable parce qu'elle est Dieu. Mais maintenant, elle est aussi capable par son humanité parce qu'elle a enduré exactement cela. Ça nous montre pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas venu, pour ainsi dire, directement avant la croix. Il a pu le faire. Pour Dieu, il n'était pas du tout nécessaire de voir que le Seigneur était parfait comme homme, parce que Dieu la savait. mais pour nous. Premièrement, pour voir qu'elle était parfaite comme homme, mais deuxièmement aussi, pour nous comme pour son peuple, pour endurer ses afflictions, ce rejet, etc., pour être capable, dans son humanité, de sympathiser avec nous dans ces circonstances. C'est vraiment une raison pour l'adorer, le Seigneur, qu'il a volontairement enduré ses souffrances pour être pour nous en aide. Maintenant, encore plusieurs pensées sur qui sont pratiquement quelque chose pour appliquer pour nous. Nous voyons dans le premier verset que Jacob a entendu les mots « Jacob a pris tout ce qui était à notre père ». Nous savons que ce n'était pas juste. Jacob, comme on voit dans les chapitres avant et comme on lit aussi dans ce chapitre, c'était Dieu qui a donné à lui ces choses, les possessions, etc. Mais c'est l'homme. L'homme voit son voisin, son copain, qui reçoit les choses, qui a plus de succès que lui. Et après, alors, elle est pleine de jalousie. Elle est jaloux. C'est dans le monde. Mais la même chose peut être dans mon cœur. Je vois que mon frère est plus doué. Je vois que mon frère est plus béni extérieurement, intérieurement. Dans la famille, dans son travail, dans je ne sais pas comment. Et on peut réagir. Peut réagir comme Laban et sa famille. Verset 2, et Jacob regarda le visage de Laban, et voici, il n'était pas envers lui comme auparavant. Maintenant, ici, certainement, Jacob a déjà entendu des choses. Mais il est très dangereux de penser, parce qu'on regarde la face de quelqu'un, on peut interpréter ses pensées et ses attitudes. Autant des cas où quelqu'un m'a dit, j'ai vu celui comme il me regarde et je sais maintenant ce qu'il a contre moi. Et si on parle après avec cette autre personne, il n'a rien dans son cœur. Nous devons être très très prudents de penser. Parce qu'on voit quelqu'un comme il nous regarde ou regarde des choses, qu'on peut interpréter des choses. C'est même dangereux, j'ai entendu cela, pour des décisions dans lesquelles on se trouve. J'ai entendu une fois que quelqu'un m'a dit, il y avait un ministère de la parole, quelqu'un a prêché, et sur un point spécial, il m'a regardé. Et c'était exactement ce qui était devant moi pour une décision. Et comme il m'a regardé, je sais, c'est le Seigneur qui m'a conduit. Et je sais, par des frères qui ont expliqué, j'ai regardé à personne. Mais de conclure des situations qui sont très, très subjectivement interprétées, des décisions, n'appuie pas les décisions sur la parole, mais sur des sentiments et des impressions très, très subjectives. On peut seulement avertir de ne pas décider d'après la parole, d'après les principes de la parole, mais d'après quelques impressions, quelques sentiments. Alors, nous voyons dans le verset 3, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté. Verset 4 jusqu'à verset 16, alors il parle avec ses femmes. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi est-ce que Jacob a discuté après avec ses femmes? Si Dieu a dit dans ce verset 3, retourne, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris les choses pour retourner? Ça nous montre la faiblesse de cette personne. Elle a eu apparemment besoin le soutenu de ses femmes. Mais si Dieu dit quelque chose, si Dieu me dit quelque chose dans la parole, pourquoi faut-il discuter cela avec ce frère, cette sœur, et pas être obéissant directement? C'est souvent notre réaction, n'est-ce pas? Peut-être on n'est pas sûr, on n'est pas positif sur quelque chose qu'on retrouve dans la parole et on cherche, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est vraiment à faire? Non, si Dieu dit quelque chose, il faut le faire. À partir du verset 5, il est intéressant que Jacob vraiment change, il me semble, sa conviction, ses pensées. Verset 5, à la fin, « Dieu, le Dieu de mon père, a été avec moi. » Verset 7, « Votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Et encore dans le verset 9, et Dieu a ôté le troupeau de votre père et me l'a donné. Il a compris maintenant que ce n'était pas, par exemple, verset 9, ses raffinesses avec les animaux de faire ceci, ceci, mais que c'était Dieu qui l'a donné ce grand troupeau maintenant. Il reconnaît que ce n'est pas d'après la sagesse de l'homme, ni d'après la force de l'homme qu'on peut réussir, mais que c'est Dieu qui ouvre une porte que nous devons prendre après. Est-ce que nous voyons aussi dans nos vies s'il y a un bon chemin, s'il y a une porte ouverte? Est-ce que nous voyons, est-ce que nous sommes... est-ce que nous avons vraiment cette conscience, cette conviction que c'est Dieu qui a ouvert cette porte, que Dieu a agi envers nous? J'en suis très sûr que nous tous, plus ou moins, ont des motifs et des convictions mêlés. Certainement, personne de nous aurait dit c'est moi qui a fait tout cela. Et quand même, dans nos cœurs au moins, il y a toujours une petite pensée, j'ai aussi aidé pour réussir, j'ai aussi fait quelque chose. Mais ici, Jacob a appris que c'était Dieu. Il est intéressant, dans le verset 16, que ces femmes répondent à cela et disent la même chose, car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père sont à nous et à nos enfants. Vraiment très encourageant ici que Dieu a pu utiliser ces femmes pour soutenir Jacob et de ne pas parler contre lui, mais de prendre, pour ainsi dire, le côté de Dieu. Dans le verset 13, Nous avons déjà touché ce verset. Je suis le Dieu de Bethel, et tu où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. Est-ce que Dieu veut rappeler Jacob que sa vie, pour ainsi dire, est toujours fondée sur des contrats, sur des alliances, sur l'essai de faire quelque chose pour recevoir après quelque chose. On peut dire légaliste. Certainement, Jacob est dans ce sens-là un type d'Israël, parce qu'Israël était sous la loi. Mais je vois aussi un croyant aujourd'hui qui essaie toujours, qui pense souvent peut-être, si je fais quelque chose, Dieu va réagir sur cela pour moi. Et c'est vrai que Dieu nous a promis de nous récompenser. Mais si je fais des choses pour recevoir quelque chose, si je fais cela, Dieu m'accepte. C'est légaliste. Dieu est plein de grâce. Il veut nous bénir totalement. Mais il n'a pas besoin de moi. Il ne veut pas que je pense parce que je fais quelque chose, alors il va réagir. Non, il veut que nos actions sont la réponse d'amour à son amour. Verset 17 nous montre que Jacob maintenant se leva. Ça veut dire maintenant il prend action. Il est actif. N'est-ce pas? Combien de fois Dieu attend de notre activité? Dieu n'attend pas un actionnisme, mais Dieu veut que nous sommes actifs pour lui. S'il nous montre quelque chose dans la parole, de le faire, de ne pas attendre, comme Jacob souvent a fait. Mais ici, c'est vraiment encourageant. Maintenant, il a compris, il faut s'activer, il le fait. Verset 20, « Et Jacob trompa Laban. » Ça veut dire, Dieu donne le commentaire que la fuite de Jacob était vraiment faux. Si Dieu dit à lui, « Retourne au pays de tes pères », verset 3, il a pu le faire ouvertement. Pourquoi est-ce qu'il a encore, et comme il le dit aussi à Laban, ce peur? Ce n'était pas du tout nécessaire. Si Dieu me dit quelque chose, comme avec Gédéon, la même chose, on peut le faire avec courage. Certainement, il faut dépendre sur Dieu. Il ne faut pas aller dans notre propre force, dans notre propre volonté. Mais on peut s'appuyer sur ces promesses de Dieu, nous aussi. Il ne faut pas aller pas se cacher. Jacob trompa Laban. Ça veut dire, il continue avec ce qu'il a fait déjà dans la maison de son père, contre Ésaü deux fois. Il a peut-être pas appris, mais il a dû souffrir par les tromperies de son beau-père. Elle n'a pas encore compris que ce n'est pas qu'il va réussir par tromper encore une fois Laban. Oui, Dieu est à sa côté, comme l'a dit, Dieu est avec moi, et même dans ces circonstances où il, faiblement, ou pas péché, trompe maintenant encore une fois Laban, Dieu va le soutenir quand même. Mais sur quel chemin? Est-ce que nous sommes transparents dans nos motifs, dans nos chemins, ou est-ce que nous aussi essayons de cacher des choses pour réussir? Dans le verset 24, Dieu parle à Laban, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Ça, c'est remarquable. J'aurais attendre, j'aurais attendu, merci, qu'il dit, « Garde-toi de parler à Jacob en mal. » Mais de se négocier, c'est Dieu, c'est que Dieu veut garder Jacob par cela. Parce qu'il y a un danger, pas seulement si le monde parle négatif contre nous, mais au moins le même danger est si le monde parle en bien à nous. Parce que ça peut, dans nos cœurs, former des racines et peut nous faire penser on peut quand même agir et agir avec le monde. On peut quand même avoir des liens avec ce monde parce qu'elle parle en bien avec nous. Et Dieu a averti, a interdit à Laban de parler même en bien à Laban, à Jacob. Alors, c'est le plus dangereux si le monde, si quelqu'un de ce monde parle en bien avec moi. Parce que je ne vais plus. Il faut être très veillant envers ceux de ce monde qui parlent bien avec nous. Quel mensonge, quand Laban, dans le verset 26, dit « Mes filles, ils étaient ses filles. » Mais il l'a comporté envers eux comme des ennemis. Et maintenant, ses filles étaient les femmes de Jacob. Verset 30. « Et maintenant que tu t'en es allé parce que tu languissais tant après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ?» Ça nous montre la vraie raison pour laquelle Laban a poursuivi Jacob. Parce que il a directement vu que les téraphimes n'étaient plus là. C'était pour lui la chose la plus importante. Où sont mes téraphimes? Ces idoles. Ces idoles, ce monde. Elles sont si importantes pour le monde. Et pour nous. Rachel a volé, on a lu déjà, elle a volé vraiment ces téraphimes. Elles étaient dans la maison de Jacob. C'était exactement d'où Abraham et sa famille étaient venus. Josué 24, ils étaient des idolâtres. Et maintenant, de nouveau en Israël, il y a des... dans la maison de Jacob, il y a des idoles. Certainement, ça aussi, un aspect de prophétie, Matthieu 12, verset 45, que la maison d'Israël sera pleine des démons. Cet esprit, mauvais esprit, sera dans cette maison. Mais ici, on voit la chose la plus importante pour Laban, c'est les idoles. Et la chose autant importante pour sa fille. Comme j'ai dit hier, les choses des parents sont vues dans les vies des enfants. Ici encore une fois, ce qui était important pour Laban est devenu important pour Rachel aussi. Et Jacob ne le savait pas. Est-ce que je sais qu'un père qui est dans ma maison, il était ignorant, verset 32, Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Et verset 32 au début, qu'il ne vive pas celui auprès de qui tu trouveras tes lieux. C'était précipitant de dire cela parce qu'il ne savait pas. Et si Laban aurait trouvé cela chez Rachel, alors? Est-ce que je sais ce qui est dans ma maison? Est-ce que nous ne sommes pas non plus comme père, des détectives, certainement pas. Mais si cette chose était si importante pour sa femme, pourquoi est-ce que Jacob ne l'a pas senti, n'a pas vu? Parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité pour sa maison. Elle était un professionnel, elle a tout investi sur son travail. Elle était expert, elle était très successif. Elle a eu beaucoup de succès, moi. Et c'était le centre de son intérêt. Elle n'a pas pris responsabilité pour sa maison. C'est encore pire parce que c'était sa femme. Est-ce que je sais qui est dans le cœur de ma femme? Et versa aussi, vice-versa aussi. Est-ce que nous savons, est-ce que nous avons une conscience, vraiment sensibilité pour savoir les désirs, ici négatifs, de nos femmes, de nos maris, de nos enfants? Et est-ce que peut-être dans ma vie, dans ma maison, il y a des idoles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont si importantes qu'on veut absolument les avoir? Oui, peut-être pour finir, encore deux pensées. Il est remarquable, verset 53, Laban parle du Dieu de Nakhor. C'est la seule fois qu'on trouve dans la parole le Dieu de Nakhor. Dieu ne s'appelle jamais Dieu de Nakhor. C'était Laban qui le dit. Et aussi avant, on voit qu'il est vraiment quelqu'un qui parle des choses. Il parle de Dieu. Je crois même qu'il parle de Yahvé, de l'Éternel, une fois, sans avoir une relation avec lui. L'hypocrisie est vue plusieurs fois dans ce chapitre. Par exemple, le verset 27, « Pourquoi t'es-tu enfoui en cachette? Je t'aurais renvoyé avec joie et avec tes chants, avec les tambourins et avec la harpe. Et tu n'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. » Il n'avait aucun intérêt à laisser Jacob aller. Avec des joies, c'était le contraire. C'est vraiment mensonge, c'est hypocrisie. Et aussi, une hypocrisie que ma famille, Nakhor, a aussi une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Il est toujours en danger de vouloir montrer quelque chose qui n'est pas vrai dans ma vie. Parmi nous, comme frères et sœurs, c'est aussi un danger. Vous êtes plus proches les uns les autres, mais quelquefois on est dans les réunions, dans les rassemblements, on se voit les dimanches aussi pour la réunion de prière. On peut montrer une face de piété, mais est-ce que c'est vrai dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment une relation pratique vivante avec le Seigneur? Dernier mot, verset 47. Laban l'appela cette selle Jega Sahadutin et Jacob l'appela Galhet. On voit que ces deux ont parlé deux langues différentes. Le monde a une autre langue que nous, les croyants, normalement. Ça, on voit ici. Il y a deux langues différentes. Le monde n'est pas le cercle, pour ainsi dire, des croyants. Et ma question pour moi et pour vous, est-ce que notre langue, ça veut dire aussi notre vie, est vraiment une autre langue, une autre caractère, une autre sphère que la vie, la langue de ce monde? On peut s'approcher. Le monde n'est jamais capable de s'approcher vraiment à le caractère, la langue, etc., des croyants. Par hypocrisie, quelquefois, c'est vrai, mais normalement pas. C'est nous qui s'approchons de la langue, du caractère, de la vie de ce monde. Et avec cela, on ne va jamais avoir vraiment communion, une vraie communion avec le monde, parce qu'on est séparés. Intérieurement, on est différent. Et le monde le sentit, on le voit dans Jean 15 aussi. Le monde haïsse ceux qui ne font pas partie de ce monde. Mais extérieurement, on peut s'approcher de ce monde. Et la langue est vraiment ça. Et nous montre quelque chose. Si je parle comme le monde, sur les choses célestes, sur les choses de ce monde, sur les choses de l'assemblée, sur les choses de la vie, je m'approche, pour ainsi dire, de ce monde. Ma vie, est-ce que c'est vraiment séparé de ce monde? Ou est-ce que ma vie est plus ou moins la même chose que ce monde? Les motifs, les buts de ma vie. Ici, on voit encore cette séparation. Est-ce que cette séparation est vue aussi dans ma vie?